feuilletage inversé. Alors en fait, c'est son nom parle de lui-même. C'est en fait c'est le beurre qui va se retrouver à l'extérieur du tourage.
Et c'est quoi l'intérêt ?
L'intérêt, c'est qu'on va avoir un feuilletage plus fondant. Moi, je préfère, mais c'est aussi, ça peut être un peu plus complexe à travailler parce que le beurre se retrouve à l'extérieur, donc ça peut, si c'est mal géré les températures, ça peut être compliqué.
Et comment il peut se retrouver à l'extérieur de quoi ?
De la pâte. Donc en fait, on fait un mélange de beurre et de farine, ce qu'on va appeler le beurre manié, et final, on va avoir notre rectangle de beurre manié et on va mettre notre détrempe à l'intérieur. On va venir le fermer par-dessus. C'est très pratique dans le monde professionnel parce que c'est un feuilletage où on peut vraiment brusquer, on va dire. On peut donner quasiment tous les tours en une journée.
Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
Je vous l'ai déjà dit, les pâtissiers sont vraiment une famille à part dans la cuisine. Trop technique, trop spécialisé, trop calme. Mais il faut que je vous dise autre chose. Chez les pâtissiers, il y a une famille encore plus technique, encore plus spécialisée, encore plus calme. Ce sont les touriers. Ce sont eux et elles qui sont en charge de réaliser la pâte feuilletée. Farine, beurre, eau, trois ingrédients. Et seulement une vie pour apprendre à maîtriser le tourage. Alors je dis une famille, c'est une toute petite famille, les touriers spécialisés. Mais on en a un avec nous aujourd'hui, c'est Julien qui est dans le jus.
Bonjour Julien.
Bonjour.
Ça va ? Salut.
Ça va bien et vous ?
Ouais, super.
Ah bah oui, moi ça va bien.
Ouais, ouais, il est venu avec des croissants.
Alors, très bien.
C'est pas des croissants, c'est...
Alors,
c'est
des brioches feuilletées. Vous espérez pas quand même que je vienne
ceux qui ne nous suivent pas sur YouTube, vous pourrez voir les images sur YouTube.
Et Instagram.
Et Instagram, bien sûr.
Alors, c'est entre la brioche et le croissant ?
Exactement. Donc c'est une pâte, un peu comme une pâte à croissant, on peut mettre un peu plus de beurre à l'intérieur, et puis bah, après il va y avoir le même travail que sur un croissant. Donc des tours classiques et puis de la pousse et puis de la cuisson.
Tu mets plus de beurre dans la détrempe ?
Ouais, exactement. Après au niveau du tourage, c'est quasiment les mêmes.
Alors attention, là ça parle super
technique. Ouais, là ça y est, c'est parti.
Trempe, la détrempe, le tourier, le machin. Alors on va revenir sur quelques basiques pour nos éditeurs et nos auditrices bien sûr. Donc explique-nous, au Québec, je pense qu'on dit laminé et en France on dit tourier.
Le travail, tu veux dire ? Tourier en général, on appelle ça
c'est laminé en France ici.
Laminé, c'est en anglais.
Ouais, c'est ça. On va plus appeler ça en anglais.
C'est un anglicisme.
Ouais, voilà, exactement. Donc moi, oui, je me considère vraiment plus comme un tourier que.
Alors,
lamination, ça va être plus en anglais. Ouais,
est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui sont spécialisés dans le tourage ou c'est
à Montréal ou en général
en France et
ouais il y en a de plus en plus de plus en plus j'en vois quand même de plus en plus aussi au Québec en général et en France ça commence en ce moment la viennoiserie explose je pense que c'est vraiment depuis un ou deux ans qu'on commence à en voir de plus en plus notamment sur les réseaux sociaux et dans les boulangeries dans les pâtisseries etc et c'est ce qui explose le plus en ce moment donc on en voit de plus en plus de gens qui se passionnent par ça et qui aiment ça
alors comment on arrive à être autant spécialisé
Le travail.
Ok, d'accord, mais dans sa tête.
Ouais, parce que c'est ça. J'ai rien oublié. Il y a trois ingrédients, quoi.
Ouais, non, oui. En gros, c'est ça. On rajoute du sel, du sucre, etc. Là, les basiques. Mais je pense que c'est vraiment passionnant, en fait. La viennoiserie, c'est un peu différent de la pâtisserie, mais c'est vivant. C'est un peu comme de la boulangerie, etc. C'est de la levure, c'est de la fermentation. Et c'est très, c'est très prenant en fait, parce qu'on a le résultat, il nous faut vraiment une rigueur au quotidien pour avoir un beau résultat. Et c'est pour ça que ça peut devenir vraiment très passionnant et très prenant dans notre tête à y penser tout le temps.
Toi, ça fait combien de temps que tu es spécialisé ?
Moi, ça fait 4 ans.
4 ans que tu es vraiment spécialisé ?
Ouais. De base, je suis pâtissier de formation, même cuisinier à la toute base. J'ai mes diplômes en cuisine et tout. Après, je suis parti en pâtisserie. Et ça fait vraiment 4 ans que je me suis mis à fond dans la viennoiserie.
Et alors, au bout de 4 ans où tu es vraiment à fond spécialisé dans ça, est-ce que tu dirais que tu maîtrises bien, mais que tu as encore des choses ou que vraiment tu as fait le tour et c'est bon ?
Non, je pense que c'est comme c'est n'importe quel métier de la restauration. Je maîtrise bien, mais on apprend tout le temps, tous les jours des choses.
Alors qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce qui te manque à apprendre ?
Moi, en fait, le problème entre guillemets d'être pâtissier, c'est que j'ai pas la formation théorique d'un boulanger qui va avoir sur toutes les spécialités des farines, sur tout ce genre de choses que moi j'essaye d'apprendre en ce moment aussi pour ma culture et pour pouvoir transmettre aux autres. Mais je dirais que c'est ça qui me manque le plus, c'est la spécificité des farines, qui est aussi très différente par rapport à celle qui est en France qu'on a au Québec. Donc c'est surtout ça qui me manque et que j'ai envie d'apprendre et de développer.
Alors. Il y a plein de questions qui
pop. Ouais, tant mieux, allez-y.
Donc déjà, est-ce qu'on peut goûter ?
Oui, bah bien sûr.
On va peut-être le faire.
On va le faire quoi ?
Après, en caméra.
Ah ok, là, tu veux me faire. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay,
il y a l'odeur, il y a les
effluves. La torture.
Tu parleras peut-être pas trop.
Ouais, on va faire de la ASMR avec ça, c'est bien.
Ok, donc alors les questions.
Oui.
Numéro 1, la viennoiserie au Québec, c'est quoi la situation actuellement ?
Ça évolue. Alors ça évolue de mieux en mieux parce qu'on a vu ça sur les 5 dernières années, c'était pas fou. Quand je commençais vraiment à m'y intéresser, il y avait pas grand chose, mais je vois de plus en plus de personnes aussi qui cherchent à s'améliorer là-dessus. Et je trouve que ça évolue vraiment ces dernières années. On a beaucoup de monde qui commence à ressortir. On a aussi le concours du meilleur croissant de Montréal qui va mettre aussi les gens en avant. Donc je trouve que ça commence à stepper un peu vers le mieux.
Bon, il y a toujours des concours comme le Cronut et le
ici
non, le Crookie ou je sais
ouais,
pas quoi.
Ouais, non, ça c'est pas pour moi ce genre de truc. Ces inventions, bon, il y en a qu'on peut garder, mais il y a des inventions, on n'en parlera pas.
Alors, c'est quoi ça a été organisé par qui le concours du
par Maudit Français, je pense, à l'Union Française de Montréal. Ça s'est fait l'année passée, il y a eu quand même beaucoup de bons retours, et puis cette année, normalement, il devrait y avoir une nouvelle édition, ou alors l'année prochaine, je pense.
Et toi, t'étais jury ?
Non, rien du tout, j'étais personne. Non, j'étais acteur de loin, je regardais un petit peu ce qui se passait, mais cette année, j'aimerais ça faire partie du jury, parce que maintenant, je ne travaille plus en entreprise, donc je ne peux pas participer. Donc je pense que j'aurai des choses à apporter au jury.
Alors, on va revenir à la base, base. Explique-nous un peu ton parcours. Tu nous as dit que tu étais cuisinier. Alors, explique-nous un peu qui tu es.
Du début.
S'il te plaît.
Oh là là, l'histoire va être longue. Hein.
Ah bah, on a le temps, on a le temps.
J'ai commencé par un CAP cuisine.
Attends. Avant ça, est-ce que tu as toujours voulu être cuisinier ?
Ouais, toujours. Alors moi, l'histoire est quand même belle. Je sais pas si vous vous rappelez de cette émission en France qui s'appelle Oui Chef, une des toutes premières émissions de cuisine qui est sortie de concours. C'était Cyril Lignac qui recrutait pour ouvrir son restaurant.
Oui. Exact.
Et c'est cette émission-là, donc j'avais une dizaine d'années, je pense, à l'époque, qui m'a donné envie de faire de la cuisine. Donc mes parents étaient un peu réfractaires au début parce qu'on connaît tous ce monde-là et ils avaient un peu peur pour moi.
Tes parents sont pas du métier ?
Non, pas du tout.
Tu viens de quelle région ?
Je suis de Bordeaux.
Bordeaux.
Ouais, c'est ça. Donc
il y a quand même une culture gastronomique
forte. Oui, vraiment. Et puis il y a de belles écoles et des hôtelières chez nous.
Ouais, puis Cyril Lignac, il est pas très loin.
C'est ça, il était pas très loin. Il y avait aussi Philippe Etchebest qui était dans le coin à l'époque, même s'il est revenu. Donc ça part de là. Moi, j'étais pas un gars très très école non plus, donc assez dissipé, assez. Y a une mouche qui vole, je regarde à droite. Donc l'école, c'était pas mon fort. Donc je suis parti en CAP cuisine et ça s'est super bien passé. Là, j'ai retrouvé un peu le goût d'apprendre, etc. Mmh. Donc deux très belles années. Ensuite, je suis parti en bac pro en restauration où j'ai continué la filière en cuisine en alternance. Et puis là, c'est à partir de là que ça a commencé à avoir des étapes un peu importantes pour moi. Donc pendant que j'étais en bac pro restauration, j'ai fait le meilleur apprenti de France en cuisine. Mmh. J'ai eu mes petites médailles en régional et en départemental. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon chef de cuisine, qui est un chef étoilé, qui m'a fait venir pour la mention complémentaire en dessert de restaurant. Donc c'est vraiment là où j'ai pu commencer à faire de la pâtisserie.
C'était qui ?
Stéphane Carade, voilà, on va y arriver. Stéphane Carade, chef 2 étoiles maintenant sur le bassin d'Arcachon.
Ok, cool.
Donc ouais, c'est très beau. À l'époque, on avait une étoile, ça s'appelait La Guérinière, donc qui a fermé maintenant. Et puis maintenant, lui, il est parti, puis il a son restaurant 2 étoiles. Et à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré le chef pâtissier, Johan, qui adorait la glace, tout simplement. Et c'est un fan de glace. Et il m'a dit, il y a le concours du championnat de France des desserts qui se fait, est-ce que tu veux t'inscrire ? J'ai dit, j'ai déjà fait le meilleur apprenti de France, j'ai vraiment aimé ça. Go, je tente l'expérience, sans forcément avoir de grandes attentes. Je m'étais dit, je participe, c'est déjà bien pour moi. Puis il s'avère que j'ai gagné la finale régionale. Donc on est 8 participants en finale régionale. Et puis après, les premiers de chaque région s'en vont en finale nationale.
Donc, tu as fait la finale nationale ?
Ouais, c'est ça.
C'était à quelle année, ça ?
Oh là, c'était en 2014 ou 2013, il me semble.
T'avais pas beaucoup d'expérience, en
fait. Non. Bah, en fait, j'ai fait la partie, pas amateur, mais il y avait la partie professionnelle et il y avait la partie étudiante du championnat de France du dessert.
Okay.
Donc, il y avait le côté apprenti, voilà, c'est ça. Le côté apprenti et le côté pro. Donc, moi, j'étais inscrit dans la section apprenti parce que j'étais encore apprenti à l'époque. Mm-hmm. Et donc, c'est à cette finale national là que j'ai rencontré donc Jean-Marc Guillaume, et ouvrier de France et champion du monde de pâtissier qui travaillait déjà au Canada, qui s'était déjà expatrié. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré et c'est lui qui m'a fait venir, qui m'a proposé un emploi, on va dire, au Canada. Et donc c'est à partir de là que je suis arrivé ici. Donc là où je dis qu'il y a mon parcours, et vraiment c'est à partir de mon bac que ça a commencé, c'est vraiment les concours qui m'ont amené à, le premier concours m'a emmené à la pâtisserie qui lui m'a emmené après au Canada. Donc c'est vraiment un cheminement qui a été fait et qui me rend là maintenant. Là,
t'as continué les concours, t'aimes ça?
Non.
Les concours,
non, bah les concours ici c'était un peu plus différent, c'est un peu plus compliqué de trouver des concours ici. Mm-hmm. Et puis j'étais trop concentré sur mon travail pour pouvoir me libérer du temps pour faire des concours.
Ok, donc tu peux nous parler un peu de ton parcours à
Montréal.
T'es arrivé à Montréal tout de suite?
Ouais, alors en fait j'ai fini mon apprentissage en juillet et en août je suis arrivé à Montréal. Donc j'ai jamais vraiment été employé en France en tant que pâtissier, j'ai toujours été apprenti. Et je suis arrivé directement, mon visa s'est fait en 3 mois, à l'époque c'était rapide. Mon visa s'est fait en 3 mois, j'ai eu un visa de travail et puis je suis arrivé instantanément.
Donc tu arrives à Montréal, alors qu'est-ce que tu fais une fois que tu es à Montréal, si tu découvres la vie professionnelle?
Ouais, c'est ça. Donc j'arrive au restaurant européen, j'en parle ou pas? Ça a duré 3 mois, hein, donc j'arrive au restaurant européen. Bon, malheureusement ça ne s'est pas passé comme je le voudrais, donc j'ai vraiment cherché ailleurs assez rapidement. Puis on m'avait déjà parlé de la maison Christian Faure, donc depuis la France. Tout simplement, mon ancien chef avait déjà travaillé avec lui. Donc, il m'a fait les papiers pour que je puisse venir travailler pour lui. Puis l'histoire a duré quand même 2 ans et demi. Donc, j'ai vraiment énormément appris en étant là-bas. J'ai fait un peu tous les postes qui étaient possibles et imaginables dans cette entreprise. Et ensuite, quand l'histoire s'est terminée, je suis parti dans une autre petite boutique qui n'a pas fait long feu, malheureusement, mais qui était un super endroit où on sortait vraiment des produits de qualité. Et encore une fois,
c'était quoi ?
Libertine Bakehouse, ça s'appelait. C'était vers Atwater, c'était sur la rue Atwater. Et la belle histoire se poursuit parce que c'est là-bas que j'ai rencontré Amaury Guichon. Donc, beau moment aussi de ma carrière parce que ça m'a donné un élan aussi dans ma carrière de pâtissier.
Tu l'as rencontré dans quel cadre ?
Alors en fait, je le suivais déjà sur les réseaux sociaux. Bon, il était déjà très connu pour l'époque. Il avait déjà quasiment, on va dire, 300 000 abonnés pour 2016 ou 2017. C'était énorme pour un chef pâtissier déjà.
Amaury Guichon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des pâtissiers superstars des réseaux sociaux. Je pense qu'il est à Las Vegas.
Mais il est à Vegas. Il a son école à Las Vegas.
Il a une école.
Ouais.
Et il est, c'est un génie.
Exactement.
Un génie de la pâtisserie, c'est un chocolatier, je pense.
Oui, c'est ça, plus spécialisé en chocolaterie avec les pièces.
Il fait des sculptures énormes, exactement, magnifiques, ouais. Super, ouais. Très, très créatif. Et, ouais. Je ne sais pas combien il a de millions d'abonnés. Mais et puis, c'est un modèle de réussite et de talent.
Ouais, exactement.
Donc, tu l'as rencontré quand il est venu à Montréal?
Oui, exactement. En fait, il est venu à Montréal et puis je l'avais vu qu'il était passé chez Patrice. Donc, quand j'avais vu ça, je me suis dit, bon, je peux lui écrire, ça me coûte rien de lui écrire et de lui dire bonjour, est-ce que ça tente de venir ce qu'on fait, est-ce que de venir goûter ce qu'on fait, pardon. Et il m'a répondu et il est passé 3 jours après. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer, ça s'est super bien passé, on a échangé un petit peu, il m'a dit qu'il avait adoré ce qu'il avait goûté. Et une semaine plus tard, je reçois un message de sa part et il me demande est-ce que tu es disponible pour un appel. Je suis oui, on peut s'appeler, il n'y a pas de souci. Et il me dit, je vais rester à Montréal un certain temps. Est-ce que ça te tente de venir occasionnellement m'aider à venir faire mes créations? Et là, je fais, bien sûr que oui. Donc,
c'est dur de dire non.
C'est là. L'occasion, l'occasion était trop belle. Et puis, donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à peu près une fois par mois, ça a duré 1 an et demi, on allait à l'Académie du chocolat de Cacao Barry qui est à Montréal. Et puis, il faisait ses créations. Donc, moi, je l'aidais à mettre un peu tout ça en place, à filmer aussi ses vidéos, à faire l'assistant, en fait, en fin de compte. Et ça s'est super bien passé. C'est une des meilleures expériences de ma vie. d'avoir pu travailler avec lui, quoi.
Il habitait Montréal ou
il habitait Montréal pendant un an et demi. Sa conjointe de l'époque habitait Montréal. Donc, lui, il avait terminé son époque Vegas, en fait, avec le casino là où il travaillait. Mm-hmm. Et donc, il a habité pendant ici, ouais, pendant un an et demi, deux ans à peu près.
Ah, je savais pas ça. Ouais. C'était quelle année?
2017, je pense, de 2017 à 2019.
Donc, qu'est-ce qu'on apprend quand on est à côté d'une telle personnalité?
Beaucoup de choses. On apprend la rigueur, ça, surtout ça, de travailler le plus carré possible. C'est ça le plus important pour lui, c'est de répéter jusqu'à que le résultat soit parfait. Après, lui, encore une fois, c'est un travail différent d'un pâtissier de boutique. Lui, il travaille pour le visuel en partie, pour promouvoir sur les réseaux sociaux, il va pas travailler sur de la quantité, etc. Mais le plus important, c'est pour lui, c'était ça, c'était d'être travailler au millimètre, travailler à la température près, travailler au grammage près, et c'était incroyable.
Ce qu'on voit pas dans les réseaux sociaux.
Oui, exactement. On pense juste que ce qu'il fait, c'est juste, ça peut être juste beau et pas spécialement bon ou autre chose, je sais pas, pas très technique, mais si, c'est très très technique justement.
Ouais. Et puis il fait toujours, il a un grand sourire, ouais, ça va vite. Il montre pas tout le travail qui est derrière.
Non, exactement. Et du travail en arrière, il y en a vraiment énormément, et c'est pour ça que j'ai un énorme respect pour lui, parce que ce qu'il fait, c'est, ça a beau pas être un pâtissier qui va se lever à 3h du matin, qui va travailler 10 heures par jour en production, mais ça reste un travail incroyable qu'il fait, et je le respecte énormément.
Donc ensuite, pendant un an et demi, une fois par mois, tu le côtoies. Là, ouais, t'apprends énormément, ouais, je suppose.
Exactement. Puis aussi pour les réseaux sociaux, en même temps, j'apprenais aussi avec lui. Ça m'a aidé.
Ouais, parce que t'es quand même
27 000
abonnés, c'est quand même une belle.
Ouais, ça commence à évoluer. C'est bien pour moi.
Quand est-ce que ça s'est lancé
Avec lui, quasiment. Parce qu'au début, quand il avait un peu moins de monde, il travaillait un peu différemment encore sur les réseaux sociaux. Donc, ça lui arrivait des fois de me mettre en avant, de me partager en story avec lui ou même sur ses posts, etc. Mmh. Et puis, il m'a appris un peu aussi à bien savoir mettre les choses en avant, prendre des belles photos et tout. Donc, c'est ça qui m'a aidé. Et ça a aussi développé ma passion pour les photos, parce que moi, j'adore faire des photos aussi. Donc, tout ça, quoi.
Est-ce qu'il y a vraiment une façon particulière de travailler les photos, la pâtisserie? Il y a vraiment. Est-ce que c'est deux approches différentes? Est-ce que.
Les photos en pâtisserie, ouais, c'est quand même assez particulier. Savoir mettre bien le produit en avant, c'est assez difficile. Et après, je saurais pas quoi dire de plus parce que je suis pas non plus un expert.
C'est des très gros plans.
Ouais, c'est ça.
Peut-être ça qui fait la différence avec d'autres choses. C'est des très gros plans, donc tu dois vraiment. Le tout petit détail est très important.
C'est ça, les objectifs sont importants, les lumières sont importantes aussi. Je peux avoir les pires conditions, ma photo elle sera pas belle. Je suis obligé d'avoir des belles lumières, d'avoir un beau contexte pour pouvoir faire une belle photo d'un produit.
Donc après cette expérience, qu'est-ce qui se passe dans ta vie?
Alors là, à cette époque, quand l'entreprise où j'étais, comme je disais, ça a pas duré très longtemps. Donc moi, j'ai été recruté au Fairmont, le Reine Elisabeth, donc pour travailler avec Jean-Marc Guillot qui m'avait fait venir ici. L'histoire a duré 3 ans, ça s'est fini avec le Covid, malheureusement. Les hôtels et tout ça, c'était très compliqué. Puis on connaît le milieu syndicalisé des hôtels où c'est les plus anciens qui ont la priorité sur les horaires. Donc quand tu te retrouves à avoir 0 shift par semaine, c'est un peu compliqué de vivre, on va dire. et après ça, donc la maison Christian Faure commençait un peu à se renouveler, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité de trouver le poste de chef tourier. Donc c'est à partir de là que mon histoire a commencé avec la viennoiserie, finalement. Et ça a duré.
Est-ce que tu avais déjà une certaine attirance pour la viennoiserie?
Ouais, ça commençait à m'attirer de plus en plus. En fait, l'hôtellerie m'a un peu, je dirais pas le terme dégoûté, mais j'avais plus envie de faire de pâtisserie. Et vraiment, c'est la viennoiserie qui m'intéressait le plus. Donc je voyais que sur les réseaux sociaux, j'en voyais de plus en plus, et ça me donnait vraiment envie, en fait, de découvrir cet univers-là. Et j'ai dit, go, j'ai envie d'apprendre. Et c'est pour ça que j'ai pris ce poste-là.
Alors, comment on apprend?
En faisant des conneries, ouais. En faisant des erreurs, en se renseignant, en prenant des cours. Moi, j'ai appris tout seul parce que j'avais personne pour me former professionnellement. J'étais tout seul à mon poste, donc j'ai dû faire mes erreurs et j'ai dû faire. J'en ai fait et puis j'ai compris certaines choses.
C'est peut-être la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire
exactement.
Des erreurs.
Exactement, ouais.
Et
puis si c'est encore mieux pour pouvoir transmettre aux autres, tu leur dis non, faut pas faire ça parce que je l'ai fait et c'est une connerie. Donc ça c'est le mieux. Après il y avait quelques chefs qui vendaient des petites formations en ligne, etc. Donc je me suis dit il faut que j'apprenne. Et puis après c'est les réseaux sociaux. Regarder comment les autres font, comment ils travaillent, les techniques qu'ils utilisent. Et puis après l'adapter au mieux pour pouvoir l'avoir dans ton environnement à toi. Parce que l'environnement aussi en viennoiserie c'est très complexe. Donc quand s'adapter
parles,
au mieux.
Quand tu parles d'environnement en viennoiserie, c'est quoi, par exemple ?
Ça va être la température du laboratoire, ça va être l'humidité, ça va être l'été, l'hiver, ça va être complètement différent. L'hiver, on va avoir quelque chose de très sec et très frais, tandis que l'été, ça va être hyper humide, ça va être chaud.
Surtout à Montréal.
Surtout à Montréal, donc c'est pas facile. Donc,
comment tu gères ça ? Tu changes les recettes ?
Bah, y en a qui changent les recettes, qui mettent un peu moins de levure, par exemple, pour l'été, pour éviter que ça développe de trop. Mais après, j'ai toujours eu la chance d'avoir un local quand même bien climatisé où il faisait bon. Donc, j'ai pas trop à me plaindre de ce côté-là. Mais le conseil, oui, que je peux donner aux gens qui galèrent, c'est vraiment c'est baisser un peu la quantité de levure pour l'été. C'est la seule solution. Ou alors, investissez dans une climatisation et travaillez dans un local à 18 degrés. Mais je comprends que c'est pas facile pour tout le monde, malheureusement.
Là, il faut que tu arrives à trouver... Alors... Déjà, numéro un, il faut que tu aies à peu près une pièce toujours à la même température, toujours la même humidité. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'il faudrait idéalement.
Idéalement, c'est ce qu'il faudrait, ouais, exactement.
Okay. C'est impossible, donc là, tu apprends tes erreurs, tu fais les mêmes mélanges, mais suivant l'humidité, la température.
Travailler avec le travail du froid, surtout, jouer avec les frigos, jouer avec les congélateurs pour pouvoir garder des bonnes textures de pâte, etc. Parce que sinon ça abîme tout, quoi. Le gluten et le beurre, ça pardonne pas là. Si les températures ne sont pas respectées, c'est un carnage.
Alors, est-ce qu'on peut reprendre de la base, la pâte feuilletée?
Ouais.
Donc tu fais, tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi.
Alors, c'est quoi une pâte feuilletée?
Alors, on parle de pâte feuilletée ou de pâte à croissant?
Pâte feuilletée.
Pâte feuilletée.
Pâte feuilletée base, et après on parlera de pâte à croissant.
Pâte feuilletée base, farine, eau, sel, un peu de vinaigre blanc. Là, le vinaigre blanc, c'est la petite astuce pour éviter l'oxydation sur les plusieurs jours. Donc un tout petit peu de vinaigre blanc dans la détrempe. Okay. La détrempe, c'est la pâte.
Farine. Alors, quelle farine tu prends ?
Ici, au Québec, on peut prendre une farine classique. L'important, c'est pas avoir trop de force dans les pâtes, parce qu'ici, les pâtes sont malheureusement un peu trop enrichies. Donc on a des pâtes très fortes avec un énorme taux de protéines à l'intérieur. Donc le mieux, c'est de prendre une farine classique qu'on peut trouver un peu partout.
Parce que qu'est-ce que ça fait s'il y a trop de
S'il y a trop de force, on va avoir trop d'élasticité dans le feuilletage et c'est ce qui on va avoir des pâtes qui vont réduire à la cuisson et même à la texture, au goût, ça va pas être assez friable, ça va pas être bon.
Donc tu fais ton mélange, donc tu as une pâte neutre.
Ouais,
Ouais, je reviens sur la farine, tu dis n'importe quelle pâte, donc farine blanche.
Ouais, farine blanche.
Farine blanche de base, usage. Que tu trouves au Provigo.
Ça peut aller.
Avec un taux de gluten.
Un taux de protéines.
Le plus bas possible.
Entre 10 et 11%, c'est le mieux pour le faire du feuilletage.
Là, ça tu le vois sur le paquet.
Ouais, ça c'est écrit.
Tu dis, ok, pas plus que 10 à 11%.
Ouais, c'est ça. Ça, on le voit sur le paquet, on peut se renseigner, c'est dans les valeurs nutritionnelles du produit. Donc, normalement, on est censé les avoir.
Ok, donc tu as choisi ta farine.
Ouais.
Ensuite, ton eau, tu la filtres ou pas ?
Non, de l'eau froide, ça me suffit.
L'eau froide, du robinet, pas de.
Ouais, c'est bon. Pas de l'eau gazeuse qui vient de je sais pas d'où là, de l'eau plate, ça ira très bien.
Ok, ensuite ton vinaigre blanc.
Un peu de sel, un peu de vinaigre blanc.
Le sel régulier.
Ouais, sel régulier, sel fin. Okay. Et un peu de beurre aussi dans la détrempe pour avoir une texture qui se tient un peu mieux.
Même quand c'est pas de la pâte à croissant.
Ouais. Ouais, ça aide. Du beurre fondu froid, généralement, on met.
N'importe quel beurre.
Ouais, du beurre doux non salé.
Je pense pas que c'était dans la recette officielle de CAP. Non,
ça a changé. Hein. Ça, on a quand même évolué maintenant.
Ça a changé. c'était pas il y a 50 ans non plus. Là.
On évolue. Mais oui, c'est ça, un petit peu de beurre fondu à l'intérieur. Et puis ça permet, en fait, que vu que la pâte sera froide, et bon, le beurre, on le sait, quand c'est froid, ça devient solide. Mmh. Ça permet de garder une pâte un peu plus ferme et un peu plus facile à travailler.
Donc ensuite, tu la laisses reposer.
Ouais, c'est ça. Moi, le feuilletage, j'aime bien faire ça sur 3-4 jours pour vraiment laisser un maximum de temps de repos.
Tu fais du repos entre les tours ?
Ouais, un peu de repos entre les tours, et puis pour éviter de trop brusquer la pâte.
Alors, on revient à la base encore une fois, excusez-moi messieurs, vous êtes technique. Tu fais ta pâte, tu la laisses reposer combien de fois ?
Sur du feuilletage classique, parce qu'après on peut encore partir sur les termes techniques, il y a le feuilletage classique et le feuilletage inversé. Sur le feuilletage classique, moi j'aime bien laisser ça reposer ça une nuit au complet, pour que vraiment que ça se relâche, que le gluten se relâche un maximum. Sinon, en plus de ça, si on le fait ça à la main, à la fin, on a les épaules et on a les bras chargés.
Tu le fais à la main ou tu fais à la machine ?
Ça dépend. À la maison, forcément, je le fais à la main. Je me débrouille pour faire à la main. Mais le mieux, c'est d'avoir un laminoir quand même.
Ok.
Donc, est-ce que ça travaille moins la pâte ?
Le laminoir ? Ouais. Ça va beaucoup moins chauffer la pâte puisque le travail va être plus rapide. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Ça va beaucoup plus facile et puis ça va éviter de la chauffer et de la brusquer et de l'abîmer la pâte.
Alors,
On revient à la base.
Encore une fois à la base, messieurs. Je vois que ça s'enflamme, ça s'enflamme. Donc je reviens. Tu fais ta pâte le soir, ouais, à la main ou à la machine?
Les deux sont possibles. Moi, je préfère travailler à la machine parce qu'en tant que professionnel, on va pas, on fait plus les choses à la main. Okay. Donc le mieux, c'est d'avoir soit un petit mélangeur, soit après ça peut être fait à la main, mais il faut.
Il y en a qui parlent du respect de la farine.
Ouais, ouais.
C'est la philosophie plus qu'autre chose.
Je pense pas. Je pense que c'est plus justement le côté boulanger qui veut ça. Et je pense que c'est plus en termes de pain qu'on va parler de ça.
Est-ce que là, faut le travailler beaucoup le?
Non,
le
justement,
trempe,
non.
Minimum.
Ouais, au contraire. Contrairement à une pâte à croissant ou une pâte à brioche, la pâte feuilletée, il faut vraiment très peu la travailler justement pour éviter de lui donner de l'élasticité.
Donc tu la mets à une vitesse, la vitesse lente, la plus,
ouais,
la moins rapide,
ouais,
de ton batteur.
Comme si ça s'était fait à la main, quoi, finalement. Vu que cette, okay, pâte est faisable à la main, on veut essayer de reproduire le même geste avec les machines.
Ok, ensuite, tu la fais le soir, style,
ouais,
à 5 heures.
Ouais.
Tu la mets au frigo jusqu'au,
ouais,
lendemain matin.
Ouais, c'est ça.
Là, tu le fais à 6 heures quand tu, ouais, te lèves, ou tu, mmh, le fais à 10 heures, ou,
oh,
tu le
peu
fais
importe,
à...
on peut commencer à faire ça à 6 heures le matin. L'important, c'est qu'il y ait au moins entre 6 et 8 heures de repos pour éviter de trop brusquer cette pâte-là.
Là, maintenant,
ouais,
tu la lamines.
Ouais.
Alors, laminer, c'est l'aplatir.
Ouais, exactement.
Doucement.
Ouais, doucement. Si on a une machine, on peut y aller, quand même, mais l'important, c'est de la mettre bien plat. Moi, j'aime bien travailler très carré, rectangle, mes produits pour éviter que ça parte dans tous les sens et que ce soit pas beau. Donc, l'étaler bien rectangle pour pouvoir après venir apposer le morceau de beurre qu'on a sur le dessus.
Et encore une fois, on la travaille pas trop.
Pareil, exactement.
Okay. Là, tu la travailles en rectangle.
Ouais.
Tu laisses le rectangle reposer ou tu...
Non, on peut incorporer le beurre directement dedans.
Ça, tu mets le beurre par-dessus, tu,
ouais,
replies tes côtés sur le beurre,
ouais,
tu coupes.
Ouais. Moi, j'incise les côtés, ça aide à éviter de donner trop de force à la pâte, de casser d'inciser les côtés, ça va casser le gluten, quoi, finalement. Et ça va aussi permettre de partir bien droit. Donc, et puis, on est sûr que même sur les côtés, on est notre couche de pâte, notre couche de beurre, notre couche de pâte.
Donc, tu les coupes en biseau.
J'incise, en fait, la pliure. Okay. En fait, la pliure. Okay. Soit on coupe les deux morceaux excédentaires qu'il y a sur le côté et on vient les poser par-dessus. Soit on peut refermer et puis on peut inciser sur les côtés.
Allez voir l'Instagram de,
ouais,
Julien.
Ça va être un peu plus imagé, mais tu la plies, en fait.
Ouais.
En part égale. Bien sûr,
ouais,
que tout soit nickel.
Ouais, tout soit droit, c'est le mieux. Parce que je sais qu'il y a, malheureusement, quand on fait du gros volume ou quoi, on peut pas se permettre de tout bien couper à chaque fois. Là, c'est compréhensible. Mais quand on a le temps et quand on peut le faire, vraiment d'être le plus régulier possible pour être sûr d'avoir des couches de pâte, des couches de beurre partout. Parce que sinon, on va pas comprendre pourquoi notre croissant, il va être beau et là, il va être pas beau. Bah, c'est un manque de régularité, quoi, finalement.
Okay.
Et donc là, c'est ton premier tour.
Ouais.
Premier tour, tu l'as mis au frigo ou pas?
Ouais, on peut mettre au frigo. On peut mettre au frigo, ça dépend ce qu'on fait. Encore une fois, ça dépend s'il fait chaud, si la pâte elle est bien froide et tout. Mais généralement, ouais, je préconise de mettre au frigo entre chaque tour un petit 15-20 minutes.
15-20 minutes.
Si ce n'est plus, ça peut monter à plus. Mais maximum, moi, ce que j'aime faire, c'est de faire juste 2 tours par jour et laisser du repos.
Deux tours par jour maximum.
Ouais.
Ah,
moi,
ouais,
je préfère, mais
tu le fais pas
non,
en une heure, quoi.
Non, j'évite. Mais encore une fois, c'est pour avoir mes résultats et ça peut marcher sur une journée. Mais c'est pas optimal, on va dire.
Alors, okay, pour expliquer, encore une fois, on revient à la base, excusez-moi, messieurs, un tour,
ouais,
c'est quand tu prends tu la sors du frigo,
ouais,
et tu la passes dans la laminoir. Ça, c'est,
ouais,
un tour.
Ouais,
tu remets du beurre ou pas?
Non, on prend notre pâte, on l'étale à une certaine longueur. Bon, il n'y a pas vraiment de longueur préconisée, là, c'est vraiment, on voit, c'est une habitude.
Tu te refais un rectangle.
Ouais,
ça
va être un rectangle bien rond.
Et tu la replies en portefeuille.
Ça dépend, il y a plusieurs tours possibles. Donc il y a le côté où ça va être plié en 3 et il y a le côté où ça va être plié en 4. Donc on va devoir mettre notre pâte, refermer notre pâte vers le centre et puis après la replier en 2. Ça s'appelle un tour double.
Ça s'appelle un tour complet.
Un tour double. Il y a tour simple et tour double.
Tour simple, tour double, tu la retravailles, tu l'étales, tu la,
mmh,
replies en 3 ou en 4. Ça c'est un tour.
Ouais, exactement,
voilà.
Ça s'appelle tourer.
Voilà,
d'où l'action de tourier et de tourer.
Alors, okay, est-ce qu'on met toujours, ou ça aussi s'est dépassé depuis 50 ans, les petites traces de doigts,
c'est le mieux quand on est nombreux en production. Parce que, mettons, il y en a un qui va faire ça le matin, l'autre qui fait ça le soir. Ou même nous, dans notre tête, des fois, on en fait tellement qu'on se dit, merde, combien j'ai de tours là-dedans, mmh. On ne se souvient plus. Donc le mieux, c'est d'identifier le nombre de tours qu'il y a à l'intérieur, si jamais quelqu'un d'autre le prend, ou encore une fois, si on a oublié.
Donc là, un doigt, c'est un tour, deux doigts, c'est deux tours, ouais. Trois doigts, c'est trois tours. Et c'est pas plus simple d'écrire sur une étiquette.
Ça peut être écrit sinon sur une petite feuille, vu qu'on l'emballe dans du plastique.
Regarde, un doigt, tu n'as pas besoin de sortir ton charpie, d'ouvrir. Le charpie, tu ne sais pas dans quel état il est.
On peut nettoyer bien les mains, bien sûr, forcément, à chaque fois.
Non, parce que tu le fais sur le.
Ouais, c'est plus pratique de l'avoir directement sur
le. Alors, le croissant comme une tour.
Alors, croissant ou feuilletage ?
Feuilletage, pardon.
Ça va dépendre du feuilletage classique ou inversé. On va rester sur les bases assez simples. Moi, sur un feuilletage classique, je vais faire deux tours doubles et trois tours simples.
Que tu alternes ?
Ouais.
Sur deux jours.
Ouais.
Donc, du coup.
Ouais. Ouais.
Tu fais, la première journée, tu te fais tes deux tours simples.
Non, je fais un tour double, un tour simple, un tour double, un tour simple, un tour simple et j'étale.
Ouais. Et donc là, ça te permet d'avoir une alternance. Des épaisseurs de feuilletage.
Ouais, c'est ça, exactement. Et puis on arrive à, faudrait recalculer ça, mais on arrive à un certain nombre de feuillets de beurre. On est à peu près entre 500 et 600 feuillets de beurre, je crois, il me semble, dans la quantité de feuilletage. Donc c'est un feuilletage qui va quand même assez bien développer, finalement. Et très bon.
Puisque le principe, en fait, alors encore une fois, tu contrôles ce que je dis, c'est que la pâte, donc la détrempe, va être imperméable. Mm-hmm. Le beurre à la cuisson va évaporer, l'eau qui est dans le beurre va s'évaporer et faire monter.
C'est l'ébullition du beurre, c'est les petites bulles de beurre finalement qui vont faire se séparer les feuillets de pâte. Et c'est ça qui va nous créer justement ces feuilles.
Les tours vont faire des feuilles superposées avec du beurre et qui vont chacune monter.
Exactement, c'est pour ça que ça développe énormément après.
Il n'y a pas de levure.
Non, pas du tout. Il y en a dans le croissant, mais pas du tout dans le feuilletage.
Justement, feuilletage inversé d'abord, la différence.
Feuilletage inversé, alors en fait, c'est dans son nom parle de lui-même. C'est le beurre qui va se retrouver à l'extérieur du tourage.
Et c'est quoi l'intérêt ?
L'intérêt, c'est qu'on va avoir un feuilletage plus fondant. Moi, je préfère, mais ça peut être un peu plus complexe à travailler parce que le beurre se retrouve à l'extérieur, donc ça peut, si c'est mal géré les températures, ça peut être compliqué.
Et comment il peut se retrouver à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ?
De la pâte.
Quand tu le plies en simple ou en double, tu mets ton beurre dessus.
Ouais. Donc en fait, on fait un mélange de beurre et de farine, ce qu'on va appeler le beurre manié, et au final, on va avoir notre rectangle de beurre manié et on va mettre notre détrempe à l'intérieur, on va venir le fermer par-dessus. Et donc ça, en fait, ça permet aussi, c'est très pratique dans le monde professionnel parce que c'est un feuilletage où on peut vraiment brusquer, on va dire. On peut donner quasiment tous les tours en une journée. Donc c'est un peu plus rentable, on va dire, en termes de temps parce qu'on peut juste laisser une heure de repos entre chaque tour et puis enchaîner les tours. Et le feuilletage, on commence la veille et le lendemain, il est terminé. Et on va avoir un feuilletage qui développe beaucoup moins que le feuilletage classique. Et par contre, sur celui-là, on verra beaucoup plus les feuillets sur les côtés, donc c'est plus joli, notamment sur les galettes ou sur les chaussons aux pommes.
Ça, c'est du feuilletage inversé.
Non, ça, c'est de la brioche feuilletée.
Tout va bien.
Eh, trois ingrédients, c'est pas fou.
et le feuilletage inversé, moi, je le trouve plus intéressant sur les millefeuilles et justement, même dans n'importe quel feuilletage, parce que c'est ça, plus fondant, moins friable, on s'étouffe moins avec, on va dire. Mais c'est sûr qu'il est quand même plus gras.
Donc, ton feuilletage inversé, tu l'utilises dans tes millefeuilles ?
Ouais.
Donc là, après avoir fait tes 5 tours,
ouais,
c'est ça ?
C'est ça.
Toujours 2, ouais, simple et double, toujours
feuilletage, on peut en faire un peu moins. On peut faire un double, un simple, par exemple. Okay. Sur le feuilletage inversé, ça suffit.
Ok, mais là, tu te coupes tes petits rectangles, ouais, et puis tu te mets ta crème. Mais ça, c'est pas toi qui l'as fait, la crème ?
Non, ça, je laisse ça au pâtissier. Moi, je leur fais le feuilletage. Je leur fais les plaques de feuilletage et puis ils s'occupent de les cuire.
Et là, si tu arrives, je dis putain, attends, je me suis fait chier pendant des heures et des heures à faire un feuilletage et toi, tu sais pas faire ta crème.
Alors, attends. J'ai perdu ma question.
Moi, j'en ai une des questions quand même, puisqu'on est sur les mille feuilles. Excusez-moi, monsieur. Mais d'après toi, ton expérience ici à Montréal, qui fait le meilleur millefeuille à Montréal ?
Je vais quand même parler de mon ancien patron là, chez Potier. Hein. Franchement, je pense que c'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleures pâtisseries qu'on peut trouver ici.
J'ai jamais eu la chance. Chaque fois que je suis allé chez Potier, je n'ai jamais eu la chance d'avoir un millefeuille.
Ah, merci.
Chaque fois, c'était vendu.
Soit vendu, soit alors ils les font les fins de semaine, si je me trompe pas, je me rappelle pas. Je sais que les gros, à une époque, je pense qu'ils les faisaient que du vendredi au dimanche. Okay. Mais pour moi, c'est là-bas qu'on a les en termes de pâtisserie boutique, qu'on a les meilleurs gâteaux.
T'as goûté ceux de rhubarbe ou pas?
Non, ça me parle pas. Ah. Okay. En plus, c'est pas loin de chez moi.
Sur Laurier.
Ouais, je suis à côté.
Très sympa.
Ouais.
Bon, en tout cas, j'ai jamais eu l'occasion de goûter chez Potier.
Ouais.
pour moi aujourd'hui les meilleurs millefeuilles à Montréal, ils sont chez Rhubarbe.
Ok, enfin j'y aille, je vais faire un tour.
C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dès demain pour la suite de cette conversation. Ciao, ciao.